Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Possible reprise des cours sur toute l'étendue de la RTC le mardi 5 janvier prochain, sauf avis contraire du ministre de la Santé et du secrétariat technique du comité des ripostes contre la COVID-19. Vous suivez dans ce journal le ministre Willy Bakonga qui a fait cette déclaration. 7 ans après la disparition de Mamadou Ndal a tombé dans l'embuscade alors qu'il se rendait à Eringeti dans le territoire de Beni dans le cadre des traques contre les ADEF. Ces derniers continuent à multiplier les massacres contre les populations civiles. Edgar Matesso, premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord qui vous sera avec nous avant la fin de ce journal. Il revient sur la disparition de Mamadou Ndal 7 ans après. Et nous allons évoquer avec lui également la poursuite de massacres des populations civiles par les ADEF. Il est notre invité. Bienvenue à toutes et à tous et merci de suivre ce journal de Radio Okapi. Les cours pourraient reprendre sur toute l'étendue de la RDC le mardi 5 janvier prochain. C'est là, sauf avis contraire du ministre de la Santé et du secrétariat technique du comité des ripostes contre la COVID-19. Cette déclaration est du ministre d'État à l'EPST au cours d'une interview exclusive accordée à Radio Okapi sur le bilan de l'année 2020 dans son secteur. On écoute Willy Bakonga au micro des JR Lungembo.
Nos compatriotes ont vu le travail que nous avons fait avec la détermination du président de la République, avec l'accompagnement du premier ministre et de tous les gouvernements, tous les partenaires, les syndicalistes, la société civile, tout le monde, les partenaires techniques et financiers. Tout le monde, nous avons sauvé l'année scolaire passée avec l'organisation des évaluations certificatives, le TENAFEP et l'examen d'État. Et aujourd'hui, il y a un regain de cette maladie, la deuxième vague, le président de la République qui a toujours une attention soutenue sur l'éducation, qui aime toujours les enfants congolais, a pris la décision de mettre à l'abri, n'est-ce pas, les enfants, d'anticiper les vacances de Noël. Et la reprise de cours, sauf avis contraire de la cellule technique de riposte, sauf avis contraire du ministère de la Santé, la reprise de cours a été fixée au mardi 5 janvier 2021. Donc, à 7h30, tous les enfants vont reprendre le chemin de l'école.
Vous pourrez suivre l'intégralité de l'interview du ministre d'État à l'EPST au cours de l'émission Parole aux auditeurs du mardi 5 janvier à 13h. Dans la ville de Butembo, le président du conseil urbain de la jeunesse demande au président de la République de faire de la jeunesse sa priorité pour les actions qu'il va mener au cours de cette nouvelle année 2021. Demande contenue dans son message bilan livré à la presse le jeudi dernier. Franck Mukenzi explique que de nombreux jeunes de Butembo ont plongé dans des antivaleurs durant l'année écoulée à la suite du manque d'occupation. Ses propos ont été recueillis par Florida Kaambu.
On ne sait pas comment encadrer les jeunes dans cette période où il n'y a même pas d'espace spécialisé pour cela. L'absence de civilisation pour les mouvements et organisations des jeunes. À vie de Butembo, c'est un sérieux problème qui demeure. La consommation des drogues, du tabac et d'alcool. Ce sont certaines conséquences que nous avons constatées, surtout par rapport à l'oisiveté, le chômage. Beaucoup de jeunes n'ont pas à faire et ceux-ci sont impliqués dans beaucoup d'actions antivalentes. La consommation abusive, surtout des chaves, s'est accentuée à vie de Butembo et ça a beaucoup de conséquences. Par exemple, vous avez attendu beaucoup de violences basées sur les genres. On en a vécu à vie de Butembo. Des grossesses non voulues et sans responsable. Il y en a eu beaucoup. Et automatiquement, ça a touché la jeunesse et même la vie en général, la vie de Butembo. Par rapport à l'engagement de la jeunesse, si le président de la République a l'intention vraiment de voir ce pays aller de l'avant, il doit prioriser sa jeunesse. C'est ainsi que toutes les actions doivent mettre au centre, bien sûr, la population en général, mais quand même la jeunesse d'une manière particulière, parce que nous savons déjà que la jeunesse, c'est le plus grand partenaire du changement positif d'une société.
Au Nord Kivu, 5 hommes sont morts pendant la période des festivités marquant la fin de l'année 2020 dans la ville de Goma. Le banditisme, l'alcool et les accidents de circulation seraient à la base de ces tueries, affirment les sources policières et celles de la justice qui ont fait la ronde de la ville le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021. Les corps des victimes ont été levés et sont gardés à la morgue de l'hôpital général de Goma. La police appelle ainsi la population à plus de prudence, surtout en cette période de couvre-feu. Des précisions, Bernard. Nardine Diambou.
D'après nos sources, alors que la population était dans la jouissance de la Saint-Sylvestre, un voleur a été tué vers 22h locales lorsqu'il a été surpris par des patrouilleurs au niveau de Kilijoué dans le quartier Majengo en commune de Karisimbi. Une autre personne a été également tuée dans la nuit de jeudi à coups de couteau par des inciviques lorsqu'il revenait d'une fête à l'entrée Kajed au quartier Ndosho situé à l'ouest de la ville de Goma. Toujours selon les mêmes sources, la troisième personne qui a trouvé la mort était un étudiant de la faculté de droit à l'INGOM. Il a été retrouvé mort devant sa maison vendredi matin. C'est après avoir été agressé dans la nuit de jeudi par les enfants de la rue dans le quartier Himbi. Le corps de notre garçon a été retrouvé non loin de l'église Bima après avoir consommé de fortes doses de l'alcool sans manger. Et la dernière victime est décédée dans un accident de circulation sur la route Goma-Sake à la suite de l'excès de vitesse. Deux autres personnes ont été grièvement blessées, a indiqué le magistrat Claver Kassa. La police appelle donc la population à plus de prudence durant cette période de couvre-feu. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Un déplacement massif des populations est signalé depuis ce samedi matin dans les localités de Ndalia et de Maïtatou dans le territoire d'Irumu. Nous sommes dans la province de l'Ituri. C'est après l'incursion des rebelles ougandais des ADF dans cette entité la nuit dernière. La société civile locale salue la bravoure des FRDC qui ont réussi à repousser ces miliciens. Charlie Omba pour d'autres précisions.
Selon plusieurs témoignages, ces rebelles ougandais des ADF étaient munis d'armes à feu et d'armes blanches. Ils ont pris d'assaut le village Maïtatou aux environs de 2h du matin après avoir tiré plusieurs coups de balles en l'air, ce qui a causé une grande panique au sein de la population locale. La société civile du territoire d'Irumu indique que des militaires des FARDC sont intervenus pour repousser cette attaque. Guili Gotabo, son coordonnateur, salue les efforts fournis par les forces loyalistes. Il demande cependant aux responsables de l'armée de renforcer l'effectif des militaires dans cette partie de l'Ituri pour intensifier les patrouilles des combats et mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Pour l'heure, le bilan de cette incursion des ADF à Maïtatou n'est pas encore connu. Toutefois, certaines sources parlent de 2 personnes tuées. Information que Radio Okapi n'a pas été en mesure de vérifier. Ce qui est, c'est que les populations de Ndalia, Maïtatou et de Badibonga désertent leur village pour le lieu jugé plus sécurisé. Pounia, Charlie Omba, Radio Okapi.
2 janvier 2021, cela fait exactement 7 ans depuis que le vaillant officier Mamadou Moustapha Ndala, alors colonel, a été tué dans une embuscade de son cortège alors qu'il s'est rendu à Eringeti. Mamadou Ndala dirigeait les opérations militaires contre les ADF et tous les autres groupes armés actifs dans la région de Beni. La population du territoire de Beni garde des souvenirs de sa bravoure et de sa détermination, comme le dit ici Janvier Kassaïrio de la société civile du territoire de Beni au téléphone de Marc Maro.
Il y a 3 choses qu'il faut retenir de Mamadou Ndala. La première, c'est la détermination. C'est un meneur d'hommes. Regardez sa détermination, ça donnait une bravoure à tout ce corps, et donc les militaires étaient un succès dans toutes les opérations possibles qu'on mène sur le plan militaire. Deuxième chose, c'est son engagement. Donc son engagement témoigne d'une qualité qu'il faut imiter dans toutes les opérations pour que nous puissions vaincre la guerre. Troisième chose, c'est la sincérité, le goût d'améliorer ce travail. Parce qu'il y en a, des gens, quand ils travaillent, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'être écoutés. Et 3 qualités là que je viens de donner, qui sont pour moi des acquis par rapport au bravoure de Mamadou Ndala. Si ça reste un modèle pour tous les autres officiers, j'espère que nous aurons une victoire sur les ADF et nous pensons que ça doit nous caractériser tous, que ce soit les civils, là, tout ce que nous faisons comme leadership, que ce soit au niveau des officiers, même au niveau de ces policiers-là, nous devons être caractérisés par ces qualités-là.
Il convient de rappeler également que Mamadou Ndala avait été nommé général de brigade à titre posthume. La zone de libre-échange continentale africaine ZELACAF est entrée officiellement en vigueur ce 1er janvier 2021. Ratifié jusqu'à présent par 34 pays, le traité est censé instaurer la plus vaste zone de libre-échange du monde avec 1,2 milliard de personnes potentiellement concernées. L'idée étant d'accroître le commerce intra-africain et d'y développer des richesses. La ZELACAF prévoit d'ici 15 ans au maximum la suppression des 90% des taxes douanières sur les biens et les services. La RDC, qui a aussi souscrit à ces traités, est-elle prête à relever ces défis économiques? On écoute la réponse du professeur Emmanuel Mukundi, ancien directeur des cabinets du ministre du Commerce extérieur et aussi expert de la RDC à la ZELACAF.
Pour que la RDC tire effectivement profit de son adhésion à la ZELECAF, il nous paraît impérieux que le gouvernement puisse procéder à la restructuration de notre système économique afin de relancer et diversifier la production intérieure, aussi renforcer les capacités de production et la compétitivité industrielle nationale à travers une politique intégrée, développer les chaînes des valeurs dans le secteur manufacturier afin de renverser la tendance de notre structure du commerce extérieur, améliorer nos réseaux de communication physique comme numérique pour la connectivité, étant donné que la RDC est la voie de transit par excellence pour le commerce intra-africain. Ainsi donc, au premier égard, on peut croire qu'avec l'avènement de la ZELECAF, la RDC perdra une partie de ses recettes de porte en supprimant les barrières tarifaires et non tarifaires. Mais moi, je dis déjà non, dans la mesure où la RDC commerce plus avec l'Union européenne, l'Asie, notamment la Chine, et moins avec les pays d'Afrique.
Toujours en ce qui concerne l'entrée en vigueur de la ZELECAF, Mathieu Sakizala, opérateur économique œuvrant dans les secteurs de l'automobile, estime que la RDC a plusieurs défis à relever pour être compétitive dans ces grands marchés interafricains. Il relève par exemple les problèmes des infrastructures et du prix exorbitant de la douane qui doivent être résolus urgemment. On écoute Mathieu Sakizala au micro d'Alain Irung.
La zone de libre-échange interafricaine devait être vraiment un outil pour que les choses changent en Afrique, en particulier à Pied-Démocratie du Congo. Mais à ce qui nous concerne, vous savez qu'aujourd'hui, la Pied-Démocratie du Congo a un énorme impasse du point de vue logistique. Le nombre de kilomètres de routes est vraiment insignifiant. Or, géographiquement, la Pied-Démocratie du Congo a 9 voisins. Et quand vous voyez que cette zone-là, en termes de la démographie d'un vaste marché de 1 milliard et quelques habitants, et on doit avoir une facilitation. Et deuxième point qui handicape un peu ce marché-là d'échange, c'est les tarifications douanières. La RDC aujourd'hui est vraiment en retard de ce côté. L'absence de créer un grand port à eau profonde à Banana a fait que la RDC recule de ce côté. Donc l'outil de logistique peut permettre que vous puissiez être attractif. Le deuxième point, c'est la production locale. Les entreprises congolaises mesurent de commercer à l'intérieur de cette zone interafricaine.
Au Kasaï oriental, près de 790 millions de francs congolais ont été retournés dans les comptes du Trésor public le 31 décembre dernier. Ces fonds constituent les reliquats de 9 mois de rente mensuelle des anciens combattants, des invalides, veuves et orphelins militaires du Kasaï oriental, mais qui étaient détournés depuis plus de 10 ans par quelques chefs de division provinciale et certains comptables publics. C'est ce qu'indique les tweets de l'autorité provinciale. Cependant, le président de l'Association des handicapés invalides de guerre, veuves et orphelins militaires affirme que sur cette enveloppe reversée au trésor public, il y a un fonds destiné à certains bénéficiaires des provinces de l'Omami et Sankourou, privés de leur rente depuis le mois de mars 2020. Des explications, Esther Ndalafina.
Sur son compte Twitter, l'autorité provinciale affirme avoir sauvé près de 790 millions de francs congolais en termes de reliquats de 9 mois de rente mensuelle des anciens combattants, des invalides, des veuves et des orphelins militaires. Cela grâce au mécanisme efficace de contrôle et d'antifraude que la mise en place indique ce tweet. Cette situation remonte du mois de mars de l'année dernière lorsque le gouverneur de province avait mis en place une commission d'encadrement de la paye des rentes mensuelles pour mettre fin aux plaintes des bénéficiaires. Deux mois seulement après la mise en place de cette commission, près de 190 millions de francs congolais ont été dégagés de cette enveloppe pour le mois de mars et d'avril de l'année dernière. Quelques personnes non bénéficiaires des rentes avaient été surprises avec des jetons distribués par un des comptables publics dans le but d'absorber le reliquat. Le même rapport avait également indiqué que près de 400 personnes seulement avaient bénéficié en réalité de cette rente au lieu de près de 10 000 inscrites sur le listing de paye. C'est ainsi que 4 chefs des divisions provinciales concernés par la paye de la rente mensuelle ont été suspendus et mis à la disposition de la justice. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Mohamed Bazoum et Mahman Ousmane sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle au Niger, selon des résultats globaux provisoires annoncés ce samedi matin par la commission électorale. Le deuxième tour est annoncé pour le 20 février prochain. Selon les résultats du premier tour annoncé ce samedi matin par la commission électorale, l'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du PNDS, obtient 1 879 543 voix et l'ancien président Ousmane obtient 811 836 voix. Les résultats étaient hier vendredi, mais le président de la CENI expliquait un peu plus tôt sur les médias nationaux que le nombre élevé des candidats cette année avait entraîné un traitement plus long des résultats et que les contrôles avaient été rigoureux. Le second tour est annoncé pour le 20 février.
L'invité.
7 ans après la mort de Mamadou Ndala, la rébellion de l'ADF n'est fait que multiplier les massacres et des exactions contre les populations de Beni au Nord Kivu et d'une partie de la province d'Ituri voisine. Selon le premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu, les complicités internes seraient à la base de la non-éradication de la nébuleuse ADF. Et ce sont ces mêmes complicités qui auraient occasionné la mort du brave officier des FARDC Mamadou Ndala. Edgar Matesso l'explique dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Edgar Matesso, bonjour.
Bonjour.
2 janvier, c'est la date commémorative de la mort du colonel Mamadou Ndala, d'heureuse mémoire. Quelle lecture vous avez aujourd'hui sur l'évolution de la traque de l'ADEF, la traque dans laquelle Mamadou Ndala est mort?
En fait, cet événement nous a toujours révélé beaucoup de trucs. La première chose, c'est que juste quand il mourait, le porte-parole du gouvernement avait déclaré que c'était les ADEF qui l'ont tué. Mais au moment du procès, il s'est révélé que la complicité était plus interne. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on a organisé les procès contre les assassins de Mamadou, on a eu comme l'impression qu'on n'a pas épuisé toutes les démarches pour aller dans le sens de découvrir même les auteurs intellectuels de ces meurtres.
Donc c'était un procès superficiel.
C'était un procès superficiel qui ne nous a pas permis vraiment de connaître la vérité autour de cette mort. Comprenez par exemple que même les chauffeurs qui promettaient déclaraient beaucoup de révélations, mais la veille il est mort la nuit, comme pour dire qu'il y aurait quelque chose qui était caché.
Alors le succès de Mamadou Ndala contre le M23 à Goma a donné de l'espoir à la population de la région du Grand Nord Kivu quand on l'a vu en première ligne pour combattre l'ADEF. Mais jusqu'aujourd'hui, l'ADEF continue à s'en renseigner davantage. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme lecture de cette évolution de l'ADEF après la mort de Mamadou Ndala?
Il faut comprendre que le phénomène ADEF, c'est une nébuleuse.
Il y a eu plusieurs changements dans le commandement des opérations contre l'ADEF, mais on ne voit toujours pas cet impact qui amène la paix définitive dans la région et éradiquer ces phénomènes.
Malheureusement, ces changements dans le commandement des opérations Sokola semblent être orientés parce que ça n'a jamais rencontré les requêtes de la population locale.
C'est quoi cette requête?
La population locale, par exemple, a toujours demandé qu'on ne puisse pas mettre à la tête de ses commandements quelqu'un d'abord recruté à l'Est, soit qui a été dans des rébellions.
Et dans la classe politique du Grand Nord Kivu, il y a cette opinion qui pense qu'il fallait donner le commandement des opérations contre l'ADEF aux officiers originaires de la région.
Bon, nous pouvons être d'avis dans la mesure où cet officier originaire n'a pas été recruté à partir des groupes armées. Avec cette nouvelle dynamique que le chef de l'État a annoncée, lui qui disait qu'on va ouvrir des écoles de guerre, nous avons pensé qu'on peut rouvrir les centres de Nyaleke et recruter les enfants qui maîtrisent cette forêt et les engager dans les fronts.
Aujourd'hui, l'ADEF aurait une nouvelle idéologie djihadiste, selon plusieurs témoignages. Et aussi, il y aurait des fils du terroir qui seraient aussi dans le rang des combattants.
En fait, ces éléments, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. C'est-à-dire, l'ennemi a aussi des stratégies de diversion. Il peut créer une diversion pour nous amener à croire que la complicité serait de tel côté ou de tel autre, pour déconcentrer les réflexions, les forces, les énergies contre les vrais ennemis.
Edgar Matesso, merci.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Alain Goy, Alain Irung, la coordonnée sous la supervision de Julien Nyamouini. Quant à moi, Pierrot Lamé, je vous retrouve tout à l'heure à 19h pour un autre bulletin d'information. Merci et au revoir.